nous sommes jeudi le 9 novembre et cette fois-ci, je n'oublie pas de dire que vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine et nous sommes toute l'équipe autour de la table. De retour de vacances, de contrats de travail à élection municipale, on est tous là autour de la table. Marie avait bien arrivé.
Oui.
Elle a eu une belle semaine. Elle a eu une belle semaine la semaine dernière, malgré qu'elle était toute seule. Mm-hmm. Alors, on...
Seule avec Mathieu, quand même.
Oui. Ben ça, c'est un beau toute seule, quand même.
Il rougit.
Alors, cette semaine, mesdames, de quoi allons-nous parler?
Alors, dans un premier temps, c'est Monique. Nous allons parler des enfants qui, grâce à un dispositif, ils auront peut-être moins mal et moins peur des aiguilles. Et le deuxième article traitera d'éthique par rapport aux recherches scientifiques.
Oh, ça, c'est un sujet beaucoup plus
sérieux. Oui.
Alors, préparez votre tasse de café en conséquence.
C'est ça, et vos petites notes, peut-être.
Oui, merci Monique Kerouac et Marie Lalande, maintenant.
Ah, moi, je vous parle d'enfants TDAHP.
P.
Je ne vous le dis pas.
Papa.
Vous le direz tout à l'heure.
Potentiel.
TDAHP, oui. Okay. Et je vous parle, en fait, je vous lis un article dont le titre est Abracadabra, puis on ne parle pas de magie.
Ah.
Oh.
Non, voilà.
Oh, OK.
C'est le mystère.
C'est le mystère.
Il y a beaucoup de mystères dans notre émission.
On va faire plein de mystères.
Et pour ma part, Yvan Deslauriers, je vais vous parler d'une nouvelle tendance qu'on a mis sur pied il y a quelque temps déjà. Là, on est, je pense, dans la troisième année de ce programme-là. C'est du vélo sur ordonnance. Alors, des médecins qui peuvent
prescrire
de faire du vélo. Pas nécessairement d'aller faire du vélo, mais de faire du vélo. Et mon deuxième article, c'est tiré du carnet d'endorphine. C'est « La valeur du guerrier ne se mesure pas au prix de son armure ». Et moi aussi, je ne vous en dis pas plus. Alors, soyez à l'écoute! Alors, chère Monique Kerouac, qui est arrivée d'un voyage qui vous a marqué, vous nous avez dit hors honte, et j'en dirai pas nécessairement plus, mais d'un beau voyage. Dernièrement, on s'inquiétait pour la survie des abeilles,
oui.
Et là, vous allez nous parler des abeilles, mais dans un tout autre contexte.
Totalement. D'ailleurs, j'avais parlé de la survie des abeilles, je pense, pendant votre absence.
Mm-hmm. Ah, ça se
passe. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour le journal Forum de l'UdeM. Vous savez que j'aime beaucoup cette source d'information. Du 28 septembre 2017, un article de Mathieu Robert Sauvé qui nous propose ce titre suivant « Les enfants souffriront moins grâce à une fausse abeille ».
Oh, OK.
Alors, une équipe montréalaise teste actuellement un dispositif destiné à réduire chez les enfants la douleur associée aux actes médicaux qui impliquent une aiguille. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit « peut-être qu'il y a bien des adultes qui apprécieraient de pouvoir bénéficier de ce subterfuge. »
Oui, d'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, j'étais un maniaque de Star Trek, puis il n'y avait pas d'aiguille, hein? C'était comme une pression d'air, fait qu'on oubliait complètement ça.
C'est ça, ben ça, c'est pas loin de ça. Une chercheuse montréalaise met actuellement à l'essai un dispositif combinant le froid et la vibration, appelé « Buzzy », qui pourrait permettre de réduire la douleur associée aux actes médicaux, donc impliquant des aiguilles chez les enfants et les adolescents. La douleur liée aux aiguilles est la plus courante en milieu hospitalier pédiatrique et nous pensons avoir trouvé un moyen de la diminuer, explique Ariane Ballard, qui est étudiante au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Alors, avec sa directrice de recherche, Sylvie Lemay, et une équipe d'infirmières, elle en est à l'étape de la collecte de données. Donc, elle commence, en fait, sa recherche au service des urgences du CHU, c'est-à-dire du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine. Déjà, 120 enfants ont accepté de participer à la recherche qui consiste à comparer le buzzy, notre petite fausse abeille, mm-hmm. avec le traitement actuel le plus courant qui est utilisé pour atténuer la douleur due aux injections et perfusions, c'est-à-dire une crème anesthésiante à la lidocaïne. Alors, il est trop tôt pour tirer des conclusions, bien entendu, mais selon ce que les chercheurs ont pu observer, la perception de la douleur est nettement réduite, particulièrement chez les enfants âgés de 8 à 17 ans. Toutefois, ces résultats semblent pour l'instant mitigés chez les moins de 7 ans, puisqu'ils ont de la difficulté à faire la différence entre la douleur et la peur. Mmh. Et là, je me dis, peut-être que les grands adultes sont comme les petits oui. de 7 ans et moins. Ils anticipent.
Et puis peut-être que les adultes aussi nourrissent
cette peur-là. Alors, selon la littérature scientifique, plus de 60% des enfants ont peur des aiguilles. Le malaise peut se traduire par des réactions physiques, comme l'augmentation du rythme cardiaque, la transpiration, les nausées, et dans le pire des cas, il y a le choc vagal et la perte de conscience. Mm-hmm. Encore une fois, on pense aux adultes. Cette aversion pose un problème au personnel soignant, car le patient est extrêmement tendu ou agité au moment d'approcher la seringue. Chez les malades chroniques, c'est un cauchemar qui se répète, bien sûr, nous fait remarquer la doctorante. Non approuvé au Canada, mais utilisé en milieu pédiatrique aux États-Unis, le buzzy prend la forme d'une abeille hémisphérique, souriante. Elle est appliquée donc près du site d'insertion de l'aiguille, quelques secondes, avant l'intervention du professionnel de la santé. Le dispositif émet une petite vibration et dégage une sensation de froid. Okay. Ce sont des ailes glacées derrière le mécanisme qui barre la transmission du message douloureux au cerveau de l'enfant.
C'est un leurre.
Oui, c'est un leurre, tout à fait, mais bon, la peur est peut-être un leurre aussi. Alors, il s'agit d'un dispositif facile d'utilisation et sans effet secondaire, qui devient donc une solution de remplacement vraiment intéressante aux produits pharmaceutiques, on en conviendra. Mm-hmm. Alors, inventé il y a une dizaine d'années par la pédiatre et chercheuse américaine Amy Baxter, qui voulait, bien sûr, trouver un moyen de réduire la douleur pédiatrique liée aux aiguilles, le Drug Free Pain Blocker, c'est-à-dire bloqueur de douleur sans médicament, a été commercialisé à partir de 2009 et est aujourd'hui employé dans 5000 hôpitaux du pays, donc des États-Unis.
Okay.
Le dispositif auquel on peut aussi recourir chez les adultes, voilà,
c'est dit, a été
approuvé par le Food and Drug Administration des États-Unis. Hein, c'est le grand mastermind derrière tous les médicaments qui sont utilisés, en tout cas en Amérique du Nord. La professeure Lemay a obtenu quelques unités du buzzy pour les besoins de la recherche de Mme Ballard. Bon, même si elle ne croit pas que son doctorat sera terminé dans les prochains jours, donc avant l'année 2019, Ariane Ballard compte publier des articles scientifiques lorsque l'étape de l'analyse des données sera suffisamment avancée. Donc, son étude pourrait certainement, on lui souhaite en tout cas, et on le souhaite pour nos enfants, et pour les adultes éventuellement, faciliter l'homologation du dispositif au Canada. Donc, lorsqu'elle aura soutenu sa thèse, c'est toujours intéressant de voir ce que des jeunes doctorants prévoient faire. Elle espère poursuivre sa carrière dans le milieu universitaire, donc l'enseignement et la recherche. En attendant, elle travaille sur différents projets de recherche et elle supervise l'application de son protocole de recherche en rendant visite aux infirmières engagées dans la cueillette de données. Et elle nous dit « J'y vais souvent ». Aussi souvent que possible, c'est toujours très émouvant de voir des enfants réagir positivement aux solutions qu'on leur offre. Et du côté de sa pratique clinique, la doctorante, qui est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, effectue mensuellement des séjours de 3-4 jours dans la ville de Meadowbank, au Nunavut. Alors, une entreprise minière l'a embauchée afin de procéder à l'évaluation médicale des candidats au poste ouvert à une mine d'or de la région. Alors, on lui souhaite beaucoup de succès par rapport à sa thèse. Et c'était donc un article de Robert Mathieu Sauvé pour le journal Forum du 27 septembre 2017.
Merci. Chère Marie.
Oui.
Ah, là, c'est difficile de dire « vous » à toi, par exemple.
C'est un beau défi, mettons.
Okay. Je vais y aller avec le « toi ».
Oui.
Tu nous as laissé en entrée avec un mystère.
Oui,
T-D-A-H-P avec un gros point d'interrogation à côté.
Alors, on va parler de ça.
Enlevons le point d'interrogation.
Oui. Alors, je vous lis un article dont le titre est « Double peine ou double chance ». C'est un texte d'Isabelle Audet qui a été publié dans la presse le 24 octobre. Donc, elle nous parle de ce type d'enfant. C'est leur... on les qualifie comme ça. En classe, ils s'ennuient et parce qu'ils ont du mal à contrôler leurs émotions, ils dérangent et parfois ils échouent. Les enfants à la fois doués et atteints d'un TDAH, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, ces enfants, à la fois doués et atteints d'un TDAH, ont un profil unique auquel s'intéressent de plus en plus de médecins et de spécialistes. Cette situation est suffisamment fréquente pour que plus de 500 parents et spécialistes de l'apprentissage se soient déplacés à Montréal pour en savoir plus à la mi-octobre. Le pédopsychiatre français Olivier Révol, ou Revol, était de passage au Québec pour aborder le quotidien de ces jeunes. Et on les appelle les jeunes TDAHP. C'est un terme du cru de M. Revol qui contracte TDAH et haut potentiel, le HP à la fin.
Ah.
Ça veut dire des enfants à haut potentiel.
Okay. Ouais.
Alors, j'explique les trois notions distinctes. Le TDAH, quand, ce qu'on en dit, la plupart des enfants qui présentent un trouble de l'attention sont facilement déconcentrés, perdent des objets fréquemment, font plus d'erreurs lorsque les tâches scolaires sont longues, procrastinent et ne terminent souvent pas ce qu'ils commencent. Certains sont impulsifs, hyperactifs et intolérants aux frustrations.
Mm-hmm.
Quand on parle d'enfants à haut potentiel ou doués, ces enfants parlent tôt, ils ont un bon vocabulaire, ils lisent seuls très vite. Ils font des liens complexes, ils préfèrent les questions à développement à celles qui n'ont qu'une réponse. Ils ont un grand sens de l'humour, ils aiment se débrouiller seuls et possèdent une grande empathie. Et les enfants TDAHP, donc ces jeunes sont plus sensibles que les autres et souvent plus anxieux. Ils réagissent fortement à l'injustice, ont parfois une piètre calligraphie, détestent ce qui est répétitif, dorment mal, argumentent souvent et fonctionnent mieux auprès des enseignants très empathiques. Ces enfants hypersensibles argumentent et bien souvent n'aiment pas trop l'école. Comme spécialiste, on rate souvent le diagnostic car le haut potentiel fait que le gamin, il s'en sort, explique d'entrée de jeu M. Revol. Au Québec, le dépistage du trouble de l'attention est en avance sur la France, constate le Dr Revol, qui a fait une partie de ses études à Montréal. Les enfants y reçoivent souvent un diagnostic unique de TDAH, alors qu'en France, on ne s'intéressera qu'au potentiel intellectuel du jeune. On estime que de 4 à 7% des jeunes ont un trouble déficitaire de l'attention. Combien d'entre eux sont aussi à haut potentiel, on ne le sait pas, affirme le Dr Revol. Il faudrait faire une enquête et faire des tests de QI à tout le monde dans une école et ça, ça coûte cher.
Mm-hmm.
Il y a plein de hauts potentiels qu'on ne connaît pas, mais on le voit. Il y a plus de TDAH et plus de dyslexiques aussi chez les enfants à haut potentiel que dans la population en général. Pour les jeunes en difficulté qui présentent les deux caractéristiques, il est primordial de s'attarder au portrait complet pour leur venir en aide, insiste le spécialiste. Par contre, le tableau n'est pas simple à dresser. Même un bon professionnel peut passer à côté en faisant bien ses devoirs, confirme Ariane Hébert, qui est psychologue et auteure de livres sur le TDAH. Elle voit chaque année, en moyenne, 4 ou 5 cas d'enfants qui cumule douance et troubles de l'attention. Prudente, elle explique que le TDAH peut tromper les spécialistes sur le potentiel intellectuel de ces jeunes. Avant même de demander une évaluation, les parents des enfants TDAHP ont d'ailleurs souvent exploré plusieurs avenues. Quand ils arrivent dans mon bureau, c'est Mme Hébert, la psychologue, qui parle. Il y a déjà beaucoup d'hypothèses qui ont été émises, constate-t-elle. On s'est creusé les méninges longtemps parce que c'est comme si on n'arrivait pas à les mettre dans aucune case, ces enfants-là. Ils ont des traits de l'un, des traits de l'autre. En classe, ils sont en opposition, ils peuvent être paresseux et ils n'ont pas nécessairement de bonnes notes non plus. Alors avant qu'on fasse le test d'intelligence, c'est pas évident. Le hasard a fait en sorte que l'an dernier, la psychologue a vu 3 enfants présentant la douance et le TDAH en très peu de temps. Ils étaient référés par des écoles qui les croyaient autistes, Asperger. Mm-hmm. Mm-hmm. Une situation fréquente, soutient le docteur Revol. Les parents sont perdus, surtout parce qu'on les met sur de fausses routes. On a tendance à attribuer les comportements de l'enfant uniquement au TDAH ou encore à une dépression, à un autisme, Asperger. Mais les parents sentent qu'on passe à côté d'un truc. Il faut donc les écouter. Le docteur Revol soulevait cette question à l'occasion de la première de ses conférences en s'adressant aux parents. Le TDAH et la douance, est-ce que c'est une double peine ou une double chance, disait-il. Optimiste, le spécialiste croit que si le chemin des enfants TDAH ou doués est tortueux, celui des TDAHP peut au contraire, être plus facile si tout est mis en place pour les soutenir. Il dit « Je suis optimiste parce qu'en 30 ans, j'ai vu que ces jeunes s'en sortent plutôt bien », dit-il. Par exemple, ils s'en sortent mieux que les enfants uniquement TDAH parce que l'intelligence les protège et leur donne les capacités pour comprendre ce dont ils ont besoin et ils finissent par trouver leur place. Mm-hmm. Il ajoute que l'impulsivité qui accompagne souvent le TDAH permet à ces jeunes d'être plus audacieux que la plupart des enfants doués. Le jeune TDAHP sera aussi plus humble, moins arrogant que la plupart des enfants à haut potentiel. Et voilà. Moi, je trouvais que c'était une particularité intéressante.
Oui.
Qu'on s'intéresse à ces enfants.
Tout à fait.
Mais toutes ces catégories qu'on... Ouais. Ça devait exister à l'époque où nous-mêmes, on était élèves.
Qu'on mettait tous dans le même panier, les enfants tannants.
Oui. Finalement, c'était des enfants tannants.
C'est ça.
Puis on leur offrait pas l'encadrement ou les services
voilà, dont ils avaient besoin.
Il fallait qu'ils se débrouillent, en fait.
Ouais. Alors, on remercie Isabelle Audet pour cet article publié dans la presse.
Merci certain, oui.
D'eau et de pain, nous partons. la chanson « Complot d'enfants » de Vincent, de Félix Leclerc, mais que nous chantaient Vincent Vallière et Marc Derry.
Alors, merci beaucoup, Mathieu. Et j'enchaîne parce que je vois le temps qui file devant moi. Et je vous parle d'un phénomène qui a... Ben, en fait, d'un programme qui a été lancé il y a quelques années, une couple d'années. Ça s'appelle « Vélo sur ordonnance ». Et c'est un article que j'ai trouvé dans Vélomag, le tout dernier Vélomag, novembre-décembre 2017, sous la plume ou le clavier de Maxime Bilodeau. Prendre une dose de vélo par jour, répéter le lendemain. Des médecins québécois prescrivent la petite reine comme on prescrit un médicament au grand plaisir de leurs patients. Et là, je vous parle de quelqu'un que j'ai peut-être croisé, mais je suis membre à un centre, ben, on en parle, le centre épique, et on ne connaît pas les gens par leur nom de famille, fait que peut-être je le connais, peut-être je ne le connais pas. Denis Betourné se souviendra toujours de ce jour de janvier dernier où son cœur a démissionné. J'étais en visite à l'Institut de cardiologie de Montréal pour un examen de routine. Lors d'un test à l'effort, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait, nous raconte l'homme de 65 ans. À peine 2 minutes après le commencement de l'épreuve, il ressent un serrement dans le thorax. Il apprend peu après qu'il souffre d'angine de poitrine. Les artères qui irriguent son cœur sont bloquées de 70 à 90 % ce qui empêche ce dernier de recevoir suffisamment d'oxygène. Un mois plus tard, il s'allonge sur une table pour subir un triple pontage. L'opération chirurgicale est un succès. Une fois remis sur pied, hors de question pour lui de se la couler douce. Au contraire, son toubib l'oblige à s'inscrire au centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal, où on offre de nombreux services en matière d'activité physique, de nutrition et de soins préventifs. Là-bas, il apprend à gérer son stress, à mieux s'alimenter, mais surtout, il en pédale un bon coup. Depuis juin, je m'y rends 2 fois par semaine pour une classe de spinning. Pendant une demi-heure, une kinésiologue nous fait alterner entre de courts efforts intenses de 15 à 30 secondes et des périodes de récupération équivalentes. Je trouve ça formidable, je ne vois pas le temps passer. Denis Betourné fait partie de quelques 2000 membres du centre épique aux prises avec une pathologie. Comme à plusieurs de ses semblables, on n'a toujours pas hésité à lui prescrire de l'entraînement par intervalle, EPI, sur vélo. Nous nous intéressons à cette approche depuis maintenant plusieurs années. Nos recherches démontrent qu'en outre de s'avérer plus efficace qu'une séance en continu, l'EPI est plus apprécié car considéré comme plus ludique, explique le cardiologue Martin Junot de l'Institut de cardiologie de Montréal qu'il dirige depuis plus de 30 ans. Lorsqu'on leur donne le choix, environ 2 patients sur 3 jettent leur dévolu sur l'EPI, soutient-il. EPI ou continu, peu importe, le vélo est souvent une option privilégiée par les professionnels de la santé. Même si moins de masses musculaires sont impliquées qu'à la course ou à la marche, ce qui en fait une activité moins complète, l'action de pédaler comporte plusieurs avantages qui lui sont propres. Très douce pour le corps, elle est tout indiquée chez ceux qui souffrent de problèmes d'ordre articulaire ou musculo-squelettique. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il est plus facile d'y augmenter les charges d'entraînement que dans la majorité des autres sports. Comparativement à la course à pied, où les blessures ne sont jamais bien loin, à vélo on peut rapidement progresser, confirme l'auteur de l'ouvrage « Un cœur pour la vie » à l'édition Très Carré. Depuis 2015, les médecins de famille québécois ont l'autorisation de prescrire de l'activité physique dans le cadre d'un partenariat de 3 ans avec le grand défi Pierre Lavoie. Concrètement, des blocs d'ordonnances ont été distribués à tous les médecins de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Blocs qui servent à prescrire des cubes d'énergie, les fameux cubes d'énergie que les parents d'enfants aiment ou n'aiment pas. Donc, on peut prescrire à des adultes des unités de 15 minutes d'activité physique. Il y a vraiment un calepin d'ordonnances spécifique à ça.
C'est formidable.
Selon Serge Dulude, directeur de la planification et de la régionalisation à la FMOQ, la symbolique de ce geste d'apparence anodine est forte. Il ne faut pas sous-estimer l'effet d'une ordonnance. Plus de 2 ans après cette annonce, une première mondiale à l'époque, il est toutefois impossible d'en évaluer les retombées. la FMOQ ne tenant pas de statistiques à cet effet. Idem quant au contenu des prescriptions. J'ignore si mes collègues ont prescrit du vélo ou toute autre forme d'activité physique à leurs patients. La réception lors de l'annonce a été bonne, mais soyons réalistes, les perceptions ne changent pas du jour au lendemain, surtout chez les vieux médecins. Alors, voilà pour les ordonnances. On a quelques secondes. Marie, tu nous fais un petit mot d'enfant.
Ben oui, alors, mémé, selon Anne-Lise, 8 ans, on parle de vieux médecins. Mémé, selon Anne-Lise, c'est comme une mamie, mais en plus vieux encore.
Oh là là!
C'est très vieux.
Alors, vous allez vous chercher un petit café parce que pour la prochaine demi-heure, suite à une recherche éthique, on a dit abracadabra et on a découvert que l'habit ne fait pas le moine. Je viens de résumer nos trois articles qui s'en viennent. Alors, on vous attend après la pause.
S'appelle Le Couleur, eh oui, et la chanson s'appelle Disco Lombo.
Disco Lombo. Alors.
Bon, sur quelque chose de plus sérieux oui, que oui. Le Lombo, là.
Rebienvenue au Voix de Service Magazine pour la deuxième demi-heure. Et on part cette deuxième demi-heure d'une façon vraiment beaucoup plus sérieuse que Disco Lombo. Monique, on a vu dans les journaux dernièrement oui. quelque chose sur ce sujet-là. Je sais que tu te réfères à un autre article.
Oui.
C'est tout ce qui entoure la recherche et particulièrement l'éthique autour de la recherche.
C'est ça. On a lu dans les journaux récemment que de nombreux chercheurs comment dire, détournait un peu
Louvois.
Louvois, c'est ça, inventait des données, des résultats.
Mais il y a beaucoup d'argent à la clé, là.
Oui, tout à fait. Chaque chercheur dépend de subventions bien importantes. Alors, plus nos recherches sont concluantes, plus on a d'argent. Mais il faut quand même respecter certaines choses. Et puis, à l'ère de fausses nouvelles, c'est aussi intéressant de lire cet article qui a été rédigé par Jean-Gabriel Ganassia. Pour la revue La Recherche de septembre 2017, il fait une chronique mensuelle, c'est la chronique éthique.
Est-ce que la revue de La Recherche,
c'est français.
C'est français?
C'est une revue française que j'ai découvert à travers ma recherche de la vulgarisation scientifique. Okay. Alors l'article s'intitule « Difficile vérité à l'heure de la post-vérité ». Alors sans doute n'y a-t-il pas de questions plus prégnante pour les scientifiques que celle de la vérité. Ils recherchent une vérité. Tout chercheur est d'abord mu par une inextinguible soif de connaissances vraies.
Au départ.
C'est ça. Comment ne pas imaginer trouver là l'origine de la motivation de chacun d'entre ces chercheurs lorsqu'ils se sont engagés dans la voie aride de la recherche? Dès lors, les falsifications, les tricheries et toutes les entorses à l'intégrité scientifique apparaissent inconcevables, car elles attestent d'un manque de confiance dans la vérité, incompatible avec l'idée même de science. Et elles sont coupables parce qu'elles corrompent les chercheurs dans leur quête de vérité. Plus que pour l'indélicatesse vis-à-vis des autres, c'est pour cela qu'on doit les condamner sévèrement. Alors, au-delà de ce qu'elle a d'inséparable avec l'activité scientifique, la vérité n'est pas toujours facile, elle est ardue. Elle l'est non seulement parce que malaisée à obtenir et complexe, mais aussi parce qu'évanescente. Dès que nous croyons en saisir quelques éclats, de nouvelles zones d'ombre surgissent. Certains le déplorent parce que cela demande des efforts inouïs sans véritable achèvement. On cherche, on sait pendant des années, pour arriver à des conclusions probantes.
Et puis quand on arrive proche, ça ne s'avère pas nécessairement toujours le cas.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, d'autres s'en réjouissent, car il suffisait de se baisser et de ramasser la connaissance posée devant nous. La recherche et ses labyrinthes n'auraient ni attrait, ni même objet. La vérité scientifique demande donc toujours à être reconquise, parce qu'elle n'est jamais absolue. De plus, elle n'a aucun caractère d'évidence et elle doit à la fois être vérifiée tout en demeurant réfutable. Ce qu'un chercheur découvre, un autre quelques jours plus tard peut le détruire en fait, c'est-à-dire susceptible d'être contredite par une expérience empirique pragmatique. En même temps, à une époque donnée, elle s'impose avec force arguments après des débats ouverts dans la communauté des savants où tous ceux qui disposent d'éléments de preuve à charge ou à décharge les font valoir. Tout ceci est bien connu et constitue le socle de la recherche sur la connaissance même. Or, à l'heure des tweets, des réseaux sociaux, des informations alternatives, c'est-à-dire des fake news et de la post-vérité, où certains contestent tout ce qui n'est pas conforme à leurs intérêts, où règne la suspicion généralisée et où le rythme effréné de diffusion d'informations paraît incompatible avec le temps de réflexion et d'élaboration patiente nécessaire à l'établissement de la vérité, la posture du scientifique dans l'espace public paraît de plus en plus délicate. En dépit des arguments très solides qu'il a accumulés, il ne saurait plus se présenter comme détenteur d'un savoir absolu. Personne désormais n'admettrait qu'il se drape dans une stature d'autorité semblable à celle des savants du 19e siècle ou à l'aube du 20e siècle, une époque où la foi dans les bienfaits de la science était quasi universelle. Pour autant, il ne doit pas accepter les manipulations de l'information et les fausses nouvelles qui déforment délibérément l'état des connaissances acquises. Et nombreux sont les sujets sur lesquels il lui appartient d'apporter ses lumières pour aider à prendre des décisions collectives importantes, que ce soit en matière d'environnement, de transport, de développement technologique ou de santé publique. On a beaucoup entendu parler de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Sans les chercheurs et leur intégrité de recherche, on n'avance pas. Hein?
Non. Mm-hmm.
Alors, donc, je disais, j'ai perdu le fil de mon texte, excusez-moi. Développement technologique ou de santé publique face à des conditions, des coalitions d'intérêts qui obscurcissent à dessein la vérité pour des raisons politiques, doctrinales ou financière.
Je ne sais pas pourquoi j'ai plein de noms dans la tête. Tout
je t'en prie. Je vous en prie, cher animateur.
Je garde ça pour moi.
Non, ne divulguez surtout pas un nom. Partout, les scientifiques doivent dénoncer les faux-semblants et alerter lorsqu'ils le jugent nécessaire. Ainsi en va-t-il du climat, de la vaccination. On a parlé de vaccination, vous vous rappelez, avant mon départ.
Oui.
Et de bien d'autres sujets, comme des prophéties transhumanistes des tenants de la singularité technologique. Dans ce contexte, la voie demeure étroite, car les chercheurs doivent dire ce qu'ils savent avec franchise, sans phare, donc en toute transparence, et le plus simplement du monde, pour être compris de tous, tout en mentionnant les limites actuelles des connaissances. Difficile vérité, donc, mais nécessaire vérité aussi. Car il y va du devoir moral des scientifiques et de leur honneur.
Mmh.
C'était donc un article de Jean-Gabriel Ganassia pour la revue La Recherche.
Oui, puis il y va aussi de prises de décisions qui ont un impact énorme.
Sur notre société, les individus et notre avenir.
Je pense à tout ce qui touche l'environnement en particulier.
En particulier.
C'est énorme.
Et la santé publique.
Alors, Marie, la seule chose que j'ai sur ma feuille présentement, c'est abracadabra.
Oui.
Mais il me semble que tu avais dit que c'est sérieux.
C'est pas de la magie.
C'est pas de la magie.
Non. En fait, je fais une courte histoire. J'avais trouvé pour cette semaine, un texte où on parlait de différenciation, de culture et d'intégration scolaire des nouveaux arrivants. Je trouvais que c'était un texte intéressant, mais c'était plutôt spécialisé, c'était pas tellement accessible. Alors, je l'ai mis de côté. J'ai décidé de le mettre de côté, mais dans ce texte-là, on faisait mention d'une ressource numérique que j'ai trouvée et que je connaissais déjà, mais ça me rappelait ça. J'ai trouvé ça intéressant et on suggérait donc cette ressource qui s'appelle Abracadabra et j'aimerais vous la faire connaître parce que ça, il y a une section qui s'adresse aux parents et j'ai trouvé ça intéressant. Je vous présente.
Mon Dieu, je pense
donc,
que je connais ça.
Ben oui, tu connais ça. Je présente ce qu'on peut trouver sur la page d'accueil du site CTREQ. C'est le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec à propos d'Abracadabra. Abracadabra, et je vais vous donner l'adresse tout à l'heure.
Mm-hmm.
Abracadabra, c'est une ressource en ligne, interactive et gratuite, c'est ce qui est intéressant, mm-hmm. qui est conçue en fonction des connaissances issues de la recherche. Alors, il y a un lien.
Oui.
Avec ce dont Monique parlait.
Tout à fait, il y a un lien universitaire.
Tout à fait. Cette ressource vise à soutenir la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture, en français et en anglais, parce que c'est une ressource qui a d'abord été conçue en anglais langue première et langue seconde, chez des élèves de maternelle, de première et de deuxième année du primaire. Abracadabra s'inscrit dans une approche équilibrée de l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Quand on parle de l'approche équilibrée, ça implique un enseignement explicite, systématique et en profondeur des différentes habiletés requises en lecture et en écriture dans un environnement de classe où il y a davantage de lecture de textes authentiques. On inclut les textes informatifs et davantage de composition de textes par les élèves. Il s'agit donc d'une approche qui combine des activités centrées sur le sens, donc comprendre ce qu'on lit, et d'autres centrées sur des habiletés déterminantes pour la réussite des premiers apprentissages en lecture et en écriture. C'est pourquoi Abracadabra propose à la fois des livres qui permettent à l'élève d'être en contact avec différents types de textes, de contenus et de niveaux de complexité variés, et des activités qui visent certaines habiletés spécifiques hautement associées à la réussite en lecture et en écriture. Le choix de l'approche équilibrée pour Abracadabra permet donc à l'ensemble des élèves de profiter des bénéfices d'un enseignement centré à la fois sur le sens et sur les habiletés essentielles. On parle de décodage, d'association, de lettres, de sons. Un tel enseignement a été démontré comme étant favorable pour la réussite de tous les élèves. Donc, autant les élèves qui sont en difficulté que les nouveaux arrivants qui s'initient à la langue, par exemple. De plus, grâce à sa forme interactive, Abracadabra favorise également la motivation et l'autorégulation de l'apprentissage des élèves. Ça comporte trois zones, la zone élève, la zone enseignant et la zone parent. Dans la zone élève, on fournit aux enfants une bibliothèque de livres virtuels, de même qu'un ensemble d'activités instructives, amusantes, en lien avec ces livres. Entre autres, plusieurs histoires tirées de la littérature jeunesse, créant un environnement d'apprentissage authentique, dynamique, des activités interactives et animations visuelles et sonores qui aident l'élève à développer la conscience phonémique, la compréhension du principe alphabétique, l'identification des mots, la fluidité, la compréhension en lecture, le vocabulaire et la production de mots écrits. Des personnages sympathiques qui accompagnent l'élève dans la lecture des livres, dans les activités, des niveaux de difficulté variés qui tiennent compte du niveau d'apprentissage de l'élève, une démonstration pour chacune des activités qui explique à l'élève comment s'y prendre pour la réaliser et des mesures d'aide qui soutiennent l'élève quand il lit le livre et quand il réalise les activités. La zone enseignant permet aux enseignants d'accroître leurs connaissances didactiques, pédagogiques sur la lecture, l'écriture, en fonction des connaissances issues de la recherche, donc des données probantes, ainsi que de faire des choix éclairés quant aux livres et aux activités à suggérer à leurs élèves, donc on peut différencier. Et la zone parent a pour objectif d'aider les parents à accompagner leur enfant de façon complémentaire à l'enseignement réalisé en classe. Cette zone permet de sensibiliser les parents à l'importance de la lecture et aux différentes étapes d'apprentissage de celle-ci. Et ça leur permet de les aider à guider leur enfant au cours de ces étapes d'apprentissage et à créer un climat bienveillant. C'est assez utile pour apprendre ça. La recherche démontre que la pratique de la lecture et de l'écriture à la maison est essentielle à l'apprentissage de l'enfant. Plus celui-ci a des occasions de lire, d'écrire et de pratiquer certaines habiletés, meilleur il devient. Abracadabra contribue justement à multiplier ces occasions-là. Donc, on peut visiter la zone parent notamment en allant sur le site http://grover.concordia, parce que ça émerge de cette université-là, .ca/resources, donc ressources en anglais avec juste un S à la fin, /abra/parent/fr. Alors, ce texte-là est disponible.
J'ai failli être taquin et te demander de le répéter, mais on va laisser faire.
On pourrait l'écrire quelque part.
Non, mais on peut taper, j'imagine, Abracadabra.
Abracadabra, puis on arrive là facilement.
C'est super. Ouais. Merci beaucoup. Alors, me revoici pour une lecture dans le domaine des activités physiques. Je l'ai pris hier dans la presse. C'est une source que j'utilise assez régulièrement maintenant dans le carnet d'endorphines. C'est une collaboration spéciale de Geneviève Lefebvre. C'est paru dans la presse d'hier, le 8 novembre. Et ça s'appelle « La valeur du guerrier ne se mesure pas au prix de son armure ». Madame Lefebvre, c'est une coureuse. Une madame coureuse. Je veux dire, c'est pas une... Mais en tout cas, ça ne m'apparaît pas comme une athlète. Elle ne fait pas ça dans la vie de tous les jours. Mais elle court. Dans le parc où je vais souvent courir, je croise toutes sortes de coureurs. Parmi eux, il y a ce jeune homme au bandana rouge et en survêtement gris qui évoque Rocky. Dans sa période, je bûche sur des quartiers de viande et je gobe des œufs crus. Il ne porte pas de montre, n'écoute pas de musique. et quand son visage concentré se fend d'un sourire de salutation, j'éprouve l'euphorie de celle qui a obtenu une victoire à l'arraché. Je ne sais rien de lui, sauf une chose, c'est un puma. Sa foulée est fluide, silencieuse, rapide, une merveille, à peine si on l'entend toucher le sol. Je ne sais pas pourquoi il court, ni dans quel but. Prépare-t-il un combat de boxe contre Apollo Creed? Un marathon? Peut-être qu'il cherche juste à évacuer le stress de la journée ou à oublier une fille qui lui a brisé le cœur. Allez savoir. Mais le simple fait de le regarder est un rappel sur ce qu'est l'essence de la course. Un sport simple, dépouillé, dont la beauté réside dans l'effort d'un corps en mouvement. Au fil du temps, j'ai aussi fréquenté des coureurs qui étaient prêts à payer cher pour leur sport. La dernière merveille technologique au poignet, le nouveau modèle de chaussures aux pieds, trempé dans l'acrylique fluo qui compresse de façon optimale, analysé de la foulée, coaché par les pros, massé comme des bœufs de Kobe, ostéopathétisé et alimenté par les meilleurs nutritionnistes. Il se tape des décalages horaires de fou pour aller courir à Tokyo, à Amsterdam, à Londres, où il loue des chambres d'hôtel tout près de la ligne de départ à des prix frisant la crise cardiaque qu'ils essaient pourtant d'éviter en galopant. Je les comprends, quand on a une passion, on se donne à fond, on ramasse l'addition et tant pis pour la raison. Ne comptez pas sur moi pour critiquer les excès des passionnés ni pour opposer les écoles de pensée. Je serai la première à vouloir courir le marathon de Tokyo ou de Paris. Mais quand je pense à mon jeune Rocky, ça m'embête qu'on puisse confondre la course avec un sport de riche qui incite aux dépenses les plus dingues en faisant croire aux gens que ça leur prend absolument ça et ça et ça. Insérez ici tout ce qui vous incite à sortir la carte de crédit s'ils veulent courir. Non, ça ne prend rien ou si peu. Tu es un vrai coureur, même si tu n'as pas THE montre GPS, pareille que celle de la NASA, ou le kit en écaille de zèbre spéciale édition du marathon de Pouvirnitouk. Ne cherchez pas, j'exagère. T'es un vrai coureur, même si tu éternises tes runnings qui tombent en ruine et que tes seuls shorts sont d'un magnifique jaune moutarde de baseball façon Village des valeurs. T'es un vrai coureur, même si tu t'inscris à aucune course de ta vie et que les seuls à te cheerer sont les morts au cimetière. Cela dit, ils sont fantastiques, toujours le bon mot pour t'encourager. Le marathon de Londres, les masseurs, le coach privé, c'est des cerises au marasquin sur le Sunday. Le Sunday, c'est le son de tes pas sur un chemin de gravier par un bel après-midi d'automne. Combien ça coûte la course? Le prix que tu veux y mettre. Et ce prix-là, il a fort peu à voir avec une carte de crédit et tout à voir avec la quantité d'œufs crus que tu as dans le ventre. Rocky style. C'était, merci pour le rire.
Excuse-moi, c'était spontané.
Merci, c'était un article dans le carnet d'endorphine de Geneviève Lefebvre.
Madame tout le monde qui court, c'est
ça? Madame tout le monde qui court, oui, je pense que je me suis mal exprimé.
Ça oui, se oui, 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 oui.
Oui, c'est unanime autour de la table.
Oui, oui.
OK. Alors, la valeur du guerrier ne se mesure pas au prix de son armure. Alors, mesdames, on a un beau 5 minutes devant nous.
C'est génial.
C'est génial parce qu'on a plein de petits articles qu'on veut transmettre. Alors, on commence avec toi, Monique.
Merci beaucoup. Ça fait quelques semaines que je transporte cet article. Mathieu, de l'autre côté de la console, te rigole parce que c'est le crâne de Descartes dont je vais vous parler.
Okay.
Le crâne de Descartes a été numérisé. Alors, qu'avait donc René Descartes dans le crâne? L'objet qui trône entre le squelette du chimpanzé et le plâtre du buste d'un vieil orang-outan dans une vitrine du Musée de l'Homme à Paris est récemment passé entre les mains du médecin légiste Philippe Charlier et de son équipe. Pour ce qui est de la surface, alors écoutez bien, elle est couverte de graffitis. Bon, on devrait mettre graffiti entre guillemets, là.
Okay.
Alors, une phrase en suédois rappelle le début de son épopée post-mortem. Alors, je cite, « Le crâne de Descartes pris par J. Fr. Planström l'année 1666, au moment où le corps était rendu à la France. » Voilà ce qui est écrit sur le crâne.
Sur le crâne.
Sur le crâne, oui, exactement. Après avoir été dérobée en douce, la relique était en effet passée de propriétaire en propriétaire avant d'atterrir au début du 19e siècle chez le biologiste français Georges Cuvier. Pour ce qui est de l'intérieur, il ne reste évidemment plus rien du cerveau qui s'y cachait, ce qui n'a pas empêché notre chercheur, M. Charlier, d'en réaliser une modélisation à partir de l'endocrâne, c'est-à-dire la surface interne de la boîte crânienne. Les méninges, le cerveau et les vaisseaux sanguins qui l'irriguent, y impriment leur forme et permettent une observation superficielle. Résultat, le philosophe avait un cerveau tout à fait moderne, classique, à l'exception peut-être d'un léger renflement du cortex frontal, une aire liée au sens des mots. Selon les chercheurs, toute conclusion serait par trop spéculative. Cette bosse suffit-elle à en faire un esprit brillant? C'est à vous de le décider.
Puis moi, je connais plus Descartes sur son côté mathématicien que philosophe, en fait. Hein?
Ben, c'est les deux.
C'est la bosse.
Hein? Oui, oui.
Marie, c'est à toi maintenant.
Oui, alors en fin de semaine, samedi, dimanche, les 10 et 11 novembre prochains, c'est la troisième grande foire de la maternité et des tout-petits qui se tiendra au Centre Pierre Charbonneau de Montréal, au 3000 rue Viau. Alors, on peut magasiner et soutenir en même temps une bonne cause parce que c'est organisé par Câlin et Popotin, Bomis et Moisson Montréal. Et ce rendez-vous regroupe une cinquantaine de commerçants en plus de proposer des vêtements, des accessoires pour les parents et leurs enfants. Cette grande foire présentera plusieurs ateliers sur l'allaitement, le massage et les pratiques alternatives en santé.
Câlin et Popotin.
Câlin et Popotin.
C'est tellement
Quel
mignon.
C'est cute.
Ah oui.
Là, il est vraiment temps. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de météo urbaine. Entre deux temps. Le temps des souvenirs de l'été et le temps des fêtes qui commencent déjà à décorer les vitrines des commerces. Le temps des chemises à manches courtes et celui qui oblige à les rallonger. Le temps d'une année qui passe et de celle qu'on va commencer. Des promesses que l'on va se faire à soi-même de peur de ne pas tenir parole si on les divulgue publiquement. Et le temps qu'il faudra prendre pour se trouver du temps pour vivre, respirer, jouer. Apprendre à ne rien faire, à se laisser porter par les idées qui défilent, par les images du paysage qui se transforme comme selon notre humeur, se raconter de belles histoires pour rien, sans qu'elles aient une fin, prendre le temps de vivre le moment d'avant l'instant où il basculera vers le futur dont on parlera au passé, être entre deux temps. Et avant de laisser la parole à Marie avec les mots d'enfant pour conclure l'émission, j'aimerais prendre le temps de remercier Mathieu Tessier à la mise en onde et Monique Kirouac, Marie Lalande et Yvan Deslauriers qui sont responsables de la recherche, de la lecture et de l'animation de cette fabuleuse émission. Et on termine avec Marie pour les mots d'enfant.
Qu'est-ce qu'un lâche selon Antoine? C'est celui qui pense avec ses jambes quand ça craint. Ça veut dire quand on a peur.
Oh! Et on va laisser la parole maintenant à Hélène Denis qui nous suit dans quelques instants. On vous souhaite on vous souhaite une belle semaine et on vous attend la semaine prochaine avec d'autres articles.
Non.